RTS. Lorsque nous regardons le ciel, nous avons l'impression que notre regard s'étend vers l'infini. Et c'est le même phénomène lorsque nous nous penchons vers le monde microscopique. Depuis la découverte de l'atome, la science découvre toujours des choses de plus en plus petites. L'infiniment grand d'un côté, l'infiniment petit de l'autre. Jusqu'où vont-ils ? Est-il possible de les mesurer ? Et finalement, c'est quoi ces infinis ?
Il faut comprendre que quand on parle de infini, je parle de très très grand, pas nécessairement infini dans un sens mathématique. Nous ne savons pas si l'univers est vraiment infini. Nous savons que l'univers que nous pouvons observer est bel et bien fini. Nous connaissons la taille de cet univers, nous connaissons le nombre de galaxies que nous pouvons observer, et nous savons comment la taille de cet univers a évolué au cours du temps, à partir du Big Bang. Et pareil, quand on regarde la physique microscopique, on parle d'objets qui sont très très petits, mais ce sont des objets qu'on peut décrire avec nos équations et qui ne sont pas infiniment petits.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, dans un monde suspendu entre des infinis et des invisibles. Gianfranco Bertone est professeur de physique théorique des astroparticules à l'Université d'Amsterdam et directeur du Consortium européen de physique des astroparticules. Il est aussi auteur du livre « Entre deux infinis » paru aux éditions Presse EPFL. Pile au milieu, nous nous trouvons pile au milieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit.
On est au milieu dans le sens que nous vivons dans un univers macroscopique qui s'étend sur des échelles d'espace et de temps qui sont inconcevables pour nous. Mais les lois de la physique qui gouvernent cet univers plongent leurs racines dans le microcosme, dans un microcosme qui est gouverné par la physique quantique, dans la physique des particules subatomiques. C'est dans ce sens qu'on parle d'une vie en tant qu'êtres humains suspendus entre ces deux infinis.
Et ce sont ces limites, ces portes vers les infinis que nous allons explorer. Car ce qui se passe au-delà de ces extrêmes échappe parfois à l'entendement des physiciens et des physiciennes.
En fait, nous savons qu'il y a une longueur qui s'appelle longueur de Planck et qu'on ne peut pas aller au-dessous de cette longueur de Planck. Parce que nos équations perdent de sens. Ce qu'il y a sur des échelles d'espace plus petites que les longueurs de Planck, nous ne savons pas comment les décrire, nous ne savons pas s'ils existent. Et on cherche des nouvelles théories de la physique pour comprendre ce qui se produit sur des échelles si petites. Mais il faut aussi comprendre qu'on parle d'échelles d'espace qui sont incroyablement petites. Donc, elles sont beaucoup plus petites que la taille des atomes qui sont dans les noyaux atomiques. Donc, c'est quelque chose qui est important pour la physique théorique, mais pas pour la description de ce qui existe dans l'univers.
La longueur de Planck, c'est du côté de l'infiniment petit, mais vraiment petit.
10⁻³ cm. Il faut écrire 0,00000033 fois 1 cm.
C'est petit. Mais que se passe-t-il à cette échelle incongrue ?
C'est difficile à dire parce qu'on est dans un terrain très spéculatif. On parle vraiment maintenant des limites de la connaissance physique. Une possibilité, c'est que la description qu'on donne de l'univers perd de sens. Et donc qu'on va vers une sorte de gravité quantique pour laquelle on n'a pas de théorie, où l'espace-temps ne se comporte pas du tout comme l'espace-temps que nous connaissons, que nous pouvons décrire avec nos équations de l'univers.
Mais c'est cet infiniment petit qui expliquerait l'infiniment grand. Alors, commençons à regarder de l'autre côté, vers le grand. Que voit-on ?
La première grande révolution de l'univers a été dans le XVIIe siècle, quand, depuis Galilée, nous avons commencé à construire des télescopes. Avec ces télescopes, nous avons pu observer des objets de plus en plus lointains. Et jusqu'à ce moment-là, on croyait d'être au centre de l'univers, et puis qu'il y avait des sphères autour de nous, la sphère des étoiles fixes, et finalement, il y avait une sphère qu'on appelait le primum mobile, en latin, d'où le mouvement de toutes les autres sphères provenait. Grâce au télescope, on a commencé à comprendre de plus en plus ce qu'il y a dans l'univers. Nous avons commencé à voir des galaxies qui existent dans l'univers, qui ne font pas partie de notre galaxie, des agglomérations d'étoiles et de gaz qui ne sont pas dans notre galaxie.
Et mine de rien, notre galaxie, même si elle paraît grande, c'est petit. Les limites ont été repoussées. On a découvert d'autres galaxies et un univers immense.
La deuxième grande révolution s'est produite dans le XXe siècle, quand on a commencé à observer ces couleurs de l'univers qui sont invisibles à nos yeux. Vous savez que nos yeux sont des organes qui ont évolué pour analyser et collecter la lumière qui est la plus abondante sur Terre, celle qui nous vient de notre Soleil, qui est une étoile. Donc, ce sont des organes qui sont faits pour voir les étoiles. Mais il y a des fréquences ou des énergies qui sont inférieures à l'énergie que nous percevons comme rouge avec nos yeux. Et donc, il y a l'infrarouge, il y a les micro-ondes, il y a les ondes radio, qui sont toutes des ondes électromagnétiques comme celles que nous observons avec nos yeux, mais à des énergies beaucoup plus petites. Et pareil, à des énergies plus grandes, vous savez, il y a toutes les couleurs, entre le rouge et le violet, à l'autre extrême du spectre qu'on observe, il y a l'ultraviolet, et puis les rayons X, et puis les rayons gamma. Et on peut, depuis le XXe siècle, on peut observer toutes ces couleurs qui sont invisibles à nos yeux. On peut voir de la lumière qui est des centaines, des milliers de fois moins énergétique ou plus énergétique de celle qu'on observe avec nos yeux.
Et puisque les scientifiques ont découvert des moyens de détecter des couleurs invisibles à leurs yeux, grâce à l'astronomie multi-ondes, ils ont pu observer le ciel sous un jour nouveau. Puis, ils sont partis à la quête d'autres signaux.
Aujourd'hui, nous sommes à la troisième révolution, qui est l'utilisation non pas de la lumière, mais d'autres messagers pour connaître l'univers.
Ces signaux ne sont pas des coursiers venus du ciel, ce sont des rayons cosmiques.
Il faut imaginer des particules comme les protons ou des noyaux atomiques qui se propagent dans l'univers et qui semblent pleuvoir de l'espace sur Terre. Nous savons aujourd'hui que ce sont des particules très énergétiques produites dans certains des événements des explosions les plus violentes dans l'univers, par exemple les explosions de supernova dans notre galaxie. On observe ces rayons cosmiques jusqu'à des énergies énormes. On parle de 10 puissance 20 électronvolts. C'est une énergie énorme, c'est l'énergie d'une balle de tennis lancée à 50 km/h, concentrée dans une seule particule. C'est une énergie énorme, vraiment. Et justement, on cherche en ce moment les sources de ces particules extrêmement énergétiques.
Des particules qui nous viennent du ciel, qui sont passées longtemps inaperçues et qui nous racontent les événements qui se jouent à des années-lumière de nous. Et ce ne sont pas les seules particules invisibles à nos yeux. Il y a des neutrinos aussi, dont les scientifiques sont très friands.
Les neutrinos, des fois on l'appelle des particules fantômes, parce que ce sont des particules très très difficiles à détecter. Ils interagissent très peu avec la matière ordinaire. Et pour les détecter, il faut construire des détecteurs qui sont énormes. Donc jusqu'à très récemment, on avait observé des neutrinos que en provenance du Soleil. Et une seule fois, en 1987, en provenance d'une explosion de supernova. Aujourd'hui, nous avons une expérience qui s'appelle Ice Cube, qui est pratiquement en kilomètre cube de glace avec plein de détecteurs dedans, vraiment à côté du pôle sud géographique. Il faut s'imaginer des neutrinos qui passent à travers toute la Terre sans interagir avec rien du tout et que statistiquement, il y en a un tous les beaucoup qui interagit avec la roche autour du détecteur ou la glace elle-même et qui produit des particules secondaires, comme les muons par exemple. Ces particules secondaires se propagent dans la glace Et ils émettent de la radiation qui s'appelle radiation Tcherenkov. Et c'est cette radiation qu'on détecte avec nos détecteurs dans la glace. Donc, grâce à ça, on commence à connaître les sources de ces particules, les sources de ces neutrinos. Et on peut faire des trucs assez incroyables. On peut prendre des photos du Soleil. Quand on est dans la nuit du pôle Sud, on peut détecter le Soleil de l'autre côté en utilisant ces particules qui sont émises au centre du Soleil, des réactions nucléaires au centre du Soleil, qui se propagent à travers toute notre planète et qui produisent des flashs de lumière dans les détecteurs.
Il tombe des particules fantômes sur nous. Ce sont ces averses invisibles que les scientifiques cherchent à détecter pour connaître ce qui se passe dans le ciel. Et les scientifiques vont beaucoup plus loin. L'astronomie est à l'affût des moindres frémissements du cosmos. Des frémissements qui ont perturbé Einstein lui-même. La gravitation a été au cœur de ses travaux.
La grande découverte d'Einstein, c'est vraiment de rendre cette idée de gravité compréhensible. Donc il est parti de cette idée d'espace-temps. Il a montré que l'espace et le temps ne sont pas deux entités séparées et indépendantes. Ils font partie d'un continuum à quatre dimensions qui s'appelle espace-temps. Ça, c'était sa théorie de la relativité spéciale. Ensuite, il a montré avec sa théorie de la relativité générale qu'en présence de matière, l'espace-temps peut se courber. Et ce que nous percevons comme gravité, c'est justement la courbure de l'espace-temps. Donc il y a des planètes, par exemple, qui se propagent dans l'espace et qui se propageraient en ligne droite s'il n'y avait pas de matière. Mais puisque l'espace-temps est courbé par la présence de la matière, ils font des orbites autour du Soleil. Les orbites sont vraiment produites par cette courbure, sont la conséquence de la courbure de l'espace-temps.
On peut donc expliquer la gravité un peu comme un trampoline sur lequel je pose une boule de bowling. Un creux se forme. Et si maintenant je fais rouler une petite balle de ping-pong à grande vitesse sur le trampoline, autour de la boule de bowling, elle va décrire une courbe. Et si cette balle de ping-pong va très vite, elle ne s'écrasera pas sur la boule de bowling. Elle tournera autour.
Et on peut utiliser la même analogie pour comprendre les ondes gravitationnelles, en fait. Si au lieu de mettre une balle de bowling, par exemple, au centre du trampoline, on met deux balles de bowling et on commence à les faire tourner très vite l'un autour de l'autre. Et si on fait une petite vidéo de ça et on regarde ça en slow motion, on verrait qu'il y a des ondes qui se produisent à cause du mouvement de ces boules de bowling. Il y a des ondulations, des vibrations qui sont produites et qui se propagent vers l'extérieur du trampoline. Les ondes gravitationnelles, c'est exactement ça. C'est des vibrations de l'espace-temps qui sont produites quand l'espace-temps est secoué par des trous noirs, par exemple, par la fusion de trous noirs.
Donc on essaye de détecter des vibrations. C'est aussi une façon d'observer des événements cosmiques.
Imaginez un tremblement de terre, vous ne pouvez pas voir la rupture dans les roches qui engendrent les vibrations dans le sol, mais vous pouvez percevoir ces vibrations dans le sol. Et si vous êtes géologue, vous pouvez même reconstruire l'énergie dégagée, la position de la rupture. Donc vous avez accès à des informations que vous n'aurez jamais avec l'observation directe à travers la lumière. Avec les ondes gravitationnelles, c'est un peu pareil. Ce n'est pas une rupture dans les roches qui engendre ces vibrations. C'est la fusion des trous noirs, par exemple, ou des étoiles à neutrons qui s'écoulent l'espace-temps. Dans ce cas-là, nous pouvons détecter les ondes produites sur l'espace-temps par ces événements extrêmes. Et donc, nous pouvons accéder à des informations sur des événements qui resteraient, sinon, enterré dans les ténèbres et à jamais hors de notre portée.
Nous cherchons tous les signaux les plus imperceptibles qui nous viennent de l'espace. Les rayons cosmiques, les neutrinos et les ondes gravitationnelles. C'est ce que l'on appelle l'astronomie multimessager. Tout cela pour voir des choses que l'on ne pourrait pas voir.
La première chose qu'on peut faire, c'est d'observer des événements qu'on ne pourrait jamais observer avec nos télescopes. Ensuite, si on observe des événements comme la fusion de deux étoiles à neutrons, ce qui s'est produit en 2017, qui émettent des ondes gravitationnelles et de la lumière, alors là, on peut faire beaucoup plus. Déjà, on peut comprendre ces explosions stellaires de façon beaucoup plus précise. On a d'ailleurs utilisé ces explosions pour comprendre l'origine des éléments chimiques, en particulier de certaines origines éléments chimiques comme l'or, par exemple. Donc l'or que j'ai dans ma bague, là, ça provient très probablement d'explosions de ce type-là. Et puis, on peut faire encore beaucoup plus, parce que vous savez qu'on a ces grands mystères dans l'univers dont on a vraiment parlé, matière noire, énergie noire. Il y a les trous noirs dont on a parlé. Et aussi le Big Bang, donc l'origine ultime de l'univers. Et bien, les ondes gravitationnelles peuvent aider pour percer tous ces mystères, peut-être trouver une solution pour chacun d'entre eux.
Tout l'enjeu, vous l'aurez peut-être compris, est de comprendre ce qui s'est passé dans notre univers et comment il fonctionne, et de faire la lumière sur la matière noire.
Pour comprendre l'importance de la matière noire, il faut comprendre qu'avant que les étoiles et les planètes se forment, l'univers était plongé dans les ténèbres. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune structure dans l'univers. C'est une forme de matière inconnue qui, à partir de toutes petites fluctuations qu'on observe d'ailleurs avec nos télescopes, à partir de ces toutes petites fluctuations, a forgé des halos galactiques qui ont permis au gaz de s'effondrer au centre de ces grands halos galactiques. Et quand le gaz s'est effondré, il est devenu dense, les étoiles se sont ensuite formées. Et donc on a eu les premières générations d'étoiles, la formation d'éléments lourds, la formation de planètes et de nous-mêmes finalement. Donc c'est important de comprendre l'origine de la matière, la nature de la matière noire, parce que finalement c'est grâce à la matière noire que toutes les structures de l'univers se sont formées.
La matière noire nous informe sur le passé de l'univers. Quant à son futur, vous le savez peut-être, notre univers grandit de manière intrigante. Ce qui m'intrigue surtout, c'est comment on sait que notre univers est en expansion. Ce ne serait pas dû à la matière noire, mais à l'énergie noire.
Dans les années 90, on a essayé de mesurer le taux d'expansion de façon très précise, et surtout de mesurer comment le taux d'expansion évolue dans le temps. Et on s'attendait à voir que le taux d'expansion décroît, parce que peut-être l'univers va se effondrer à nouveau dans le futur. Tandis que ce qu'on a observé, c'est que le taux d'expansion de l'univers augmente avec le temps. Comme s'il y avait une forme d'énergie qui pousse l'univers à accélérer l'expansion de l'univers. Et là aussi, ça a été un choc, parce que personne ne s'attendait à ça. Et donc, on est allé récupérer dans la poubelle des idées abandonnées une vieille théorie d'Einstein qui s'appelle la constante cosmologique. C'était une théorie qu'Einstein avait proposée parce que ses équations prédisaient l'expansion de l'univers, mais à l'époque, personne ne savait, Einstein ni aucun autre scientifique, savait que l'univers était en expansion. Donc, il s'est dit, bon, c'est peut-être mes équations, je me suis trompé peut-être avec mes équations, je vais mettre un autre terme, cette constante cosmologique, et comme ça j'obtiendrai un univers statique, comme celui qu'on observe à l'époque. Alors là, dans les années 90, on a repris cette idée d'une constante cosmologique. On sait maintenant que cette constante cosmologique peut être interprétée comme une forme d'énergie qui existe dans l'univers. Cette énergie a une propriété étonnante qui est celle de ne pas être diluée par l'expansion de l'univers.
Une énergie qui n'est pas diluée par l'expansion de l'univers. Et là, je me perds. Je prends un ballon, je mets un peu de sirop dedans, je le gonfle avec de l'eau. Mon sirop sera de plus en plus dilué. Et en poussant à l'extrême, on ne verra même plus la couleur du sirop. Il sera complètement dilué par l'eau. Pour l'énergie noire, sombre, ce serait le contraire. Plus l'univers gonfle, plus cette énergie semble prendre de l'importance.
Si vous y réfléchissez, il n'y a rien qui se comporte comme ça dans l'univers. S'il y a un certain nombre de particules dans une sphère et que vous augmentez le diamètre de cette sphère d'un facteur 10 ou 100, bah, la densité de ces particules, le nombre reste le même. La densité, qui est le rapport entre la masse et le volume, doit décroître. Tandis que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forme d'énergie qui ne se comporte pas comme ça. C'est comme si cette énergie était liée vraiment à la quantité de volume qui existe. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, comme possible explication de ça, de l'énergie du vide quantique.
Mais l'énergie du vide quantique, c'est l'énergie dans l'infiniment petit. Et c'est cette énergie-là qui influencerait l'infiniment grand. C'est cette énergie-là qui pousserait les limites de l'univers.
Si on remonte en arrière dans l'histoire de l'univers, l'univers était très dense au début. À ce moment-là, la présence de cette énergie associée au vide n'était pas vraiment importante. Tout était dominé par les formes de matière qui existaient à l'époque. Mais au cours de l'expansion de l'univers, la densité de toutes ces formes de matière et d'énergie a commencé à décroître. Jusqu'au moment où on a commencé à observer, quand la densité d'énergie de tout ce qui existe dans l'univers a commencé à décroître, jusqu'au point où la présence de cette énergie 2.0 a commencé à se manifester dans l'univers. Et nous sommes maintenant dans une phase où le destin de l'univers dépend de l'existence de cette énergie 2.0. Et puisqu'elle pousse l'univers à accélérer son expansion, elle va dominer complètement la matière et l'énergie de l'univers. Donc dans le futur, selon le modèle cosmologique standard, on verra toutes les galaxies s'éloigner entre elles, et en partie toutes les galaxies s'éloigner de nous, et donc faire de l'astronomie et de la cosmologie dans 100 milliards d'années, ça sera très compliqué, parce qu'on verra de moins en moins de galaxies, on verra que les étoiles dans notre propre galaxie.
Et les signaux qui nous parviendront seront de plus en plus ténus. En attendant, les mystères du cosmos ne cessent de se déployer dans la tête des scientifiques. L'avenir de l'univers nous intrigue et son passé reste flou.
On pousse notre connaissance de l'univers de 400 000 ans après le Big Bang, qui est le moment où on observe ces fluctuations, jusqu'à une fraction de seconde après le Big Bang. Mais on se posera toujours la question, pourquoi il y a ce champ d'énergie, pourquoi il y a ce champ énergétique à l'origine du Big Bang, y a-t-il d'autres univers, qui a mis ces univers-là, etc.
Nous ne sommes pas seulement suspendus entre deux infinis, mais nous baignons aussi dans l'invisible et l'inconnu. Et quand l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, un vertige en chasse un autre. L'univers de Microsciences est aussi peuplé d'invisibles. Camille Dupont-Laïte, coproductrice, qui contribue au rayonnement cosmique de ce podcast. Jérôme Nussbaum, qui enveloppe chaque épisode d'ondes musicales. David Golan, réalisateur, détecteur infaillible de signaux sonores. Et Andrea Glanville, attachée de production et maîtrise de messages écrits. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique et particule insondable.
Pourquoi je n'ai que deux bras? Que se passe-t-il quand je dors? Le zèbre, est-il blond avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches? Les virus sont-ils utiles? Dois-je me remettre au sport? Qui m'enverra la prochaine question de Microsciences?
Si ce podcast vous plaît, diffusez-le sur vos réseaux sociaux préférés et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou PlayRTS. Et si vous voulez sonder d'autres questions, écrivez-nous à microsciences@rts.ch, microsciences en un seul mot et au pluriel. À bientôt !